bonjour. En direct du local du comité Maméga, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère 88.4 de la bande FM et sur le canal C de 8C du réseau numérique, sans omettre le tout monde de Radio Galère, www.radiogalère.org, ainsi que le site du comité vivreensemble.org. Nous remercions nos invités qui se sont rendus disponibles pour être en notre compagnie. J'espère qu'elle sera bonne pour vous aussi. Bonjour.
Bonjour.
Alors Guillaume ainsi que Maurice, nous parlerons, nous entretiendrons avec eux, n'est-ce pas, sur le quartier en ce moment, à partir d'un thème qui est celui du virus, de la guerre, nous, habitants du monde, nous, du Grand Saint-Barthélemy. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses à aborder. Nous adressons un clin d'œil à notre animatrice Lily, à notre passeuse de mémoire Karima Berich, ainsi qu'à Pierre Alézo du Conseil citoyen. Ils n'ont pas pu être là et présents parmi nous. Vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 26 38. Et la première pause musicale est en concordance avec le thème. Nous souhaitons aussi un bon voyage à notre tout premier président et président d'honneur du comité Maméga, notre ami, notre frère et camarade Jean-Denis Blaise, qui a retiré sa révérence hier matin. Je pense que le Blaise aurait apprécié ce morceau de Bernard Lavillier, Le cœur du monde. Merci Sidi à la technique.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Et oui, toujours à l'écoute de Radio Galère, à la conception et réalisation des échos, Farid Adrar, bien sûr, la technique Sidi, à l'animation Saïd et moi, Jean-Marc, en attendant que Lily puisse faire son retour. Nous attendons aussi l'arrivée de Yazid Attala de l'association 7 Santé et Environnement pour tous afin de nous entretenir du virus. En attendant son arrivée, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau venu sur le secteur en la personne de M. Jody Maurice. Il est chargé de mission de direction du Centre social Flamand Iris. Alors bonjour, je vais vous laisser vous présenter, bien sûr, ça va de soi.
Ben, bonjour, merci pour cette invitation. Alors, nouveau venu, oui, mais ancien dans les centres sociaux, très ancien et expérimenté. C'est pour ça que j'ai fait une mission en remplacement dans un centre social sur un territoire que je connais un petit peu, puisque j'ai, en tout cas sous les caractéristiques sociales et sociologiques, puisque j'ai beaucoup travaillé dans des quartiers dits QPV dans la région Rhône-Alpes.
Voilà. D'accord. Donc, si en premier lieu aussi, nous pouvons, puisque vous remplacez Elisabeth Bougon, donc nous adressons un clin d'œil à Elisabeth en espérant la revoir et en espérant qu'elle aille de mieux en mieux. Et le remplacement, juste une question peut-être indiscrète, c'est provisoire ou c'est durable?
Alors, déjà, pour répondre à la première question, Elisabeth va bien.
Eh bien, c'est
voilà,
bien.
Voilà, nous l'avons vu avec le président la semaine dernière. Elle a repris Elisabeth. Du poil. Voilà, elle a repris du poil de la bête, comme on dit. Et normalement, si les questions administratives se règlent, elle devrait reprendre incessamment sous peu, en tout cas d'ici la fin avril.
D'accord. Voilà. En quoi consiste la fonction de chargé de mission de direction?
Ben alors, dans cette mission-là, effectivement, au départ, cette idée, la principale mission, c'était d'assurer un remplacement de la direction pour assurer ce qu'on appelle pompeusement la continuité de la fonction de pilotage d'une association, puisque nous avons des agréments de la Caisse d'allocation familiale. Mais l'avantage du chargé de mission, c'est qu'on peut y mettre aussi des priorités. Et le conseil d'administration avait souhaité, avec cette mission qu'on a montée avec l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône, avait souhaité mettre un accent sur le soutien à l'équipe. Parce qu'effectivement, quand une direction est absente, les équipes assument. Et parfois, c'est un peu difficile, surtout dans un contexte dont on va probablement parler.
Oui, tout à fait. Voilà. En prolongement, la question, c'est Jean-Baptiste Benazé, qui était directeur de MFA. Il est parti. Est-ce que vous assurez aussi un peu cette transition en ce moment?
Absolument, oui, puisque de toutes les façons, dans la mission donc, que j'avais au sein du Centre social des Flamands. Le Centre social des Flamands, comme vous le savez, est géré par l'association de la GAFMA et j'étais contractualisé avec l'association de la GAFMA, qui pour le coup a étendu ma mission avec évidemment mon accord, a étendu ma mission temporairement avec deux grands objectifs. Le premier, c'est effectivement assurer le recrutement du prochain directeur ou directrice à la MFA pour que voilà, cette fonction de direction ne soit pas sans dépourvu. Et là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour maintenir l'animation de la vie associative, préparation de l'Assemblée générale, poursuite du projet social pour les Flamands, et puis suivre un peu l'équipe, et encore une fois, dans la même lignée, soutenir des équipes qui, quand elles se retrouvent sans direction, sont assez autonomes, je tiens à les féliciter tous et à les saluer, mais qui, malgré tout, ont besoin d'avoir un responsable qui les rassure, qui les accompagne, qui règle les quelques difficultés.
Dans ce contexte, le territoire est extrêmement élargi, étendu. Cela va des quartiers flamands, Iris, le campus et autres, ça va jusqu'à Fond Vert. Bon, donc cela demande une charge de travail extrêmement importante, non?
Alors, effectivement, la charge de travail est assez conséquente, mais je crois que dans tous les centres sociaux, à partir du moment où on a affaire à des habitants, à des bénévoles, à, on va dire, une surcharge administrative qu'on connaît de plus en plus, dans les centres sociaux, toutes les fonctions de direction sont compliquées. Même si le quartier est très restreint, les problématiques sont quasiment toutes les mêmes. Là, la seule difficulté, c'est qu'effectivement, le territoire est assez vaste, mais il y a, et comme je le disais quand je suis arrivé au centre social des Flamands, j'avais laissé des quartiers un peu QPV il y a quelques années en arrière dans la région Rhône-Alpes, puisque je suis dans le Var depuis une dizaine d'années. Mais j'ai retrouvé dans le centre social des Flamands et à la MFA et dans les quartiers de la Busserine et Fonds Vert et les Flamands Iris, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, j'ai retrouvé quand même un accueil, une dynamique, voilà, une vie qu'on retrouve pas par ailleurs dans certains territoires urbains ou périurbains où les gens sont un petit peu plus renfermés chez eux, un peu plus méfiants de l'autre.
Et comment ça se passe, votre mission, c'est votre fonction d'animation globale et de coordination? Guillaume, prépare-toi parce que ça sera la même question.
Aussi. Alors, vous avez voulu dire, il y a notre mission principale, c'est effectivement que le cahier des charges, si on peut dire ça comme ça, de la FONC, qui est inscrite dans la circulaire de la CNAF, je ne sais plus si c'est 2012 ou 2016, en tout cas c'est 2012, mais qui a été modifié en 2016, qui dit que la vie associative et les actions de développement social local doivent être maintenues sur un territoire. En fait, j'allais vous dire, moi, pour qui suis un peu un vieux. On peut le dire comme ça, Briscard, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
D'accord. Voilà. Alors, nous allons passer à Guillaume. Bonjour, Guillaume Sage, qui est le directeur de Centre social Agora.
Hein, c'est ça.
Voilà. Alors, depuis combien de temps maintenant, Guillaume, tu es parmi nous?
En septembre prochain, ça fera 5 ans.
Bon, donc tu es arrivé en retard parce que depuis la création du centre social Agora qui fête cette année, c'est 50 ans, n'est-ce pas?
C'est ça, voilà.
Alors, donc, est-ce que tu peux peut-être dire deux mots par rapport à l'historique, un peu de cette création?
Oui, alors ce sera bref parce que comme tu dis, c'est 50 ans d'histoire. 2022, on fête les 50 ans de l'Agora, qui à l'origine ne s'appelait pas l'Agora, mais la SCQB, Association d'animation socioculturelle du quartier de la Busserine, et qui a démarré en cœur de quartier au bâtiment B7, et puis qui a essaimé, s'est développé jusqu'à intégrer une ancienne école qui sont maintenant les locaux du centre social. Au début des années 2000, changement de nom, on passe d'ASCQB à Agora, l'agrément de la CAF transforme l'association en centre social. Voilà, mais là, en 2022, on va fêter les 50 ans de l'histoire d'origine pour revenir un petit peu sur toute cette histoire qui est une histoire militante. Parce que quand même, ce projet de centre social, il a été création de l'association SCQB, transformation en centre social. Tout ça, c'est bien la volonté des habitants et des associations locales qui fait que ça existe aujourd'hui. Donc je suis le responsable de... Je récupère cette histoire, mais je la récupère en cours de route. Je la continue.
Tu es dépositaire.
J'en suis dépositaire, effectivement. Voilà.
Donc, à l'occasion de ces 50 ans, entre-temps, vous avez eu des travaux dans les bâtiments et à quel moment vous allez réintégrer vos locaux?
Oui. Alors, ce n'est pas forcément à l'occasion des 50 ans. Hein. Je crois que le calendrier est arrivé un peu par hasard, mais de fait, c'est vrai que depuis mon arrivée, il y avait un projet de rénovation, on va dire de retournement du centre social. Le centre social était tourné, un petit peu replié sur lui-même. Et là, depuis 6 mois, il était en travaux. Après la construction d'une nouvelle place du côté de la gare, eh bien, le centre social a récupéré une nouvelle entrée qui donne sur ce parvis de la gare, ce qui fait que ça permet au centre social, finalement, sans bouger, de se réouvrir sur le quartier, mieux ouvert sur la Busserine, mieux ouvert sur Picon, sur Fonds Vert. Voilà, donc on a quitté les lieux fin juin 2022 et on y retourne la semaine prochaine. Voilà,
une
toute cette durée de travaux.
D'accord.
Très bonne nouvelle, oui.
Donc, fonction d'animation globale. Et bon, il y a cette idée derrière aussi, c'est celle d'éducation populaire aussi. Parce qu'à l'essence sociale, à l'origine, il y avait beaucoup cette idée et cette philosophie. Où en sommes-nous? Je pose la question à Maurice aussi. Et c'est une vaste question. Si vous voulez, vous pouvez passer.
Sur la question de l'animation globale, oui, c'est vrai que c'est la mission première du centre social. Donc je dirais, on a été, pendant 8 mois, on était en dehors de nos locaux, répartis dans différents locaux. On a été accueillis, hébergés dans les locaux de la crèche de l'œuf, qui est ces locaux qui eux-mêmes sont en attente de rénovation, dans notre accueil jeune, mais aussi à Sheba, à Mamega, dans l'association Passerelle. On a dispatché un peu toutes les équipes et les activités, et parce que l'objectif, c'est bien la continuité de l'activité. L'animation globale, c'est un truc qui ne doit pas s'arrêter, même si on n'est pas dans nos murs, continuer les activités et les adapter en fonction des contraintes, bien sûr. Donc, voilà ce que je peux en dire.
Bonjour, bonjour Monsieur Attala, Yazid, comment allez-vous, jeune homme ?
Bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour, tu vas te présenter. Donc, président de CET, Santé et Environnement pour tous.
Toujours.
Alors, toujours, la question, bien sûr, c'est de savoir, vous êtes combien au niveau des membres de la structure et quel est votre champ d'intervention aussi ?
Alors, CET a été créé en 2019. Donc, on est une association. On est à peu près une vingtaine de membres qui sont composés d'acteurs du monde associatif et aussi d'acteurs du monde médical. Donc vous avez des médecins à la retraite, des médecins d'activité. Et donc elle a été créée par la volonté de réduire les inégalités en matière d'accès aux soins. Mais pas que. Élaborer aussi des stratégies d'intervention sur le champ de la prévention, toujours en lien avec la santé, toujours en lien avec l'impact environnemental, parce qu'on est conscient que dans ces territoires qui ont été fortement, fortement bousculés, malmenés par les travaux, ben, y a un lien de causalité directe entre la recrudescence de certaines pathologies et malheureusement les travaux. Et puis d'une manière générale, les quartiers populaires ont toujours été le réceptacle malheureusement de maladies d'un autre monde qu'on voit pas dans d'autres secteurs. Donc nous, c'est notre philosophie, on essaye d'aller vers cette population, ben, de leur donner quand même des informations par rapport à leurs droits déjà. Beaucoup d'entre eux ne savent pas ou n'ont pas conscience de la possibilité qu'ils ont de se faire soigner. Donc on essaye d'apporter ben, cette information, cette orientation, et toujours dans la bienveillance, parce qu'on n'est pas les sachants. Donc on apporte une information et puis on écoute beaucoup.
D'accord. Eh bien, je pense que CET sera aussi bienvenue comme d'autres institutions à l'occasion de l'émission du mois de mai que nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer, dont le thème sera la concertation. Comme vous savez qu'il y a eu la ministre de la Ville qui est passée avant les élections. C'est fruit du hasard, c'est une simple coïncidence, j'ignore. Mais néanmoins, il y a pas mal d'argent qui est dévolu au quartier prioritaire de la ville. Donc nous serons amenés à parler de tout cela et à réinscrire cela dans une perspective historique concernant la concertation, première concertation, qu'est-ce que ça a donné. Et lors de la dernière émission précédente, il y a une habitante de Abenos qui s'est plainte de ce souci, de cette préoccupation compte tenu de l'AL2 qui a été construite et des désagréments. Bon, nous reparlerons de tout cela à partir du mois de mai. La concertation, ça te branche, hein, Yazid, de parler de ça, environnement.
Je pense que c'est fondamental. Hein.
Je pense que Guillaume ainsi que Maurice seront enchantés de participer à cette émission.
Concertation, c'est une chose. Il faut qu'on puisse après mettre en application nos recommandations.
Mais nous sommes d'accord parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y aurait à revoir pour ceci. Alors, première pause musicale, puisque avec Yazid et nos invités, nous aborderons la première problématique qui est celle du virus. Parce qu'apparemment, je n'ai pas envie de faire une forme d'humour, de dire que ce sont les bombes qui ont exterminé le virus. Mais bon, malgré tout, le virus il est toujours omniprésent et bien au contraire, très vivace. Merci pour la première pause musicale, Sidi.
Inungi o wati buha tuju, koronari wane na e hamvu. Narcizirenge hawangu.
Korona ni pwene sharisha hao. Wade nto uju wadalao.
Miyo zahema tuabibu, we miwaribe senu.
Nanya suya warini kazo Aye holambe korona limshinde Mwanadamu jihifadhi uhifadhi o wasaya Aye holambe korona limshinde Mwanadamu jihifadhi uhifadhi o wasaya
Anganje ritsi nikane mihono Mahadisi jive panzala metera
Tisa mwe tiko hoe usoni mwe mwana nyuho
Lunyasuya raniki wazo
Aye holambe korona limshinde Mwanadamu jihifadhi uhifadhi o wasaya
Aye holambe koronari mshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya.
Mihono narihoseha daima, mutanyiho bangazula muziani.
Wejiwona mlemevu, baki hodaho ni haho.
Donya suya, raniki wazo.
Aye holambe, koronari mshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya.
Aye holambe, koronari mshinde.
Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi o wasaya.
Corona, le caravage de Dieu commence à frapper.
Les échos sur le 88.4, vous nous excusez pour ce petit blanc, mais qu'est-ce que vous voulez, bon, ça fait partie du direct aussi, donc il n'y a aucun souci. Alors Saïd, c'est toi qui devais interpeller un peu notre ami Farid, non?
Oui, donc c'est une nouvelle rubrique, je pense qu'il va falloir la faire plus régulièrement, c'est le micro-trottoir, donc Farid s'est chargé pour l'émission d'aller rencontrer des enfants près d'une école. Alors, pourquoi ce reportage? Quel était le sens?
Le sens de ce reportage, c'est dans le cadre de ce fameux Covid qui est remonté par rapport à les quartiers prioritaires, par rapport à l'inquiétude qu'il y a par rapport à ce Covid-là qui revient à chaque fois. Et on s'est aperçu, on s'est dit, et malgré ça, il y a pas mal de populations ici dans ce quartier-là qui ne sont pas vaccinées. Et Yazid est là et il va en parler en tant que président de l'association 7. Et on a aussi soulevé aussi le problème de la guerre en Ukraine. On s'est dit pourquoi pas parler aussi de la guerre en Ukraine. Et vous allez écouter le micro-trottoir. Et c'est vrai qu'il y a eu... J'ai eu au début du mal à interpeller les habitants. Et heureusement, moi qui est un acteur de terrain, il y en avait qui m'ont reconnu. Bon, je connaissais pas mal de mamans et tout ça. Il y avait une relation de confiance. Et c'est là que je leur ai posé la question, notamment autour du Covid. Et ils ne savaient pas qu'il y avait la remontée de ce fameux BA2 Omicron. Ils étaient vachement surpris, les habitants. Je vais te dire, Yazid. Ils étaient complètement... Et je leur ai posé aussi le problème du masque aussi. Et vous allez voir un petit peu ce qu'ils nous répondent concernant... Voilà, tout ce qui est ces problèmes.
Merci, on va écouter.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct devant l'école de la Busserine primaire et maternelle. Nous allons poser des questions sur la thématique de la guerre en Ukraine et de ce qui touche aussi le Covid, et notamment du vaccin variant, et notamment aussi du variant Omicron qui commence un petit peu à remonter. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui ne seront pas au courant. Voilà, on va leur poser la question. Avec deux demoiselles du collège, c'est ça?
Collège Pithéas.
Je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que vous portez toujours le masque là-bas?
Alors oui, on porte le masque dans notre classe parce qu'il y a eu un professeur qui a eu le Covid et voilà.
Comment ça se passe quand il y en a une ou deux personnes qui sont éventuellement qui sont en contact? Est-ce que vous êtes obligé de rester en classe ou ils ferment la classe du jour au lendemain s'il y a quelqu'un avec le Covid?
On ferme pas la classe. C'est embêtant.
Je voulais savoir par rapport à un masque, est-ce que c'est toutes les classes du collège qui sont obligées de mettre le masque ou ça y est, vous le mettez plus complètement?
C'est que notre classe. C'est que
toujours ici en direct, devant l'école de la maternelle, par contre. On veut savoir comment ça se passe par rapport au masque.
Est-ce que... Sans masque?
Sans masque. Et là, aujourd'hui, vous avez repris, c'est ça, les enfants?
Ah, pour les enfants, super.
Ouais, par contre, je veux savoir par rapport à...
Moi, par exemple, mon fils est autiste. Donc maintenant qu'il ne me voit pas sans masque, il sourit, parce que du coup...
Non, pas trop.
Toujours en direct, ici, à l'école de la maternelle. On veut savoir par rapport à vos enfants, concernant le masque.
On voit vos masques.
Oui. Ça va.
Ça va? Bien. Ils sont contents?
Ouais.
Ouais. Est-ce que vous savez que le virus recommence un petit peu à monter?
Ah ouais?
Ouais.
Déjà?
Ouais.
Bon, moi, je n'enlève pas le masque toujours.
Voilà, d'accord.
Masque au dehors, ça va, mais quand on est au parc ou bien à la maison, on peut enlever. Oui, mais au dehors, avec d'autres personnes, il faut garder toujours le masque. Ouais.
Pour le vaccin, vous en avez parlé?
Oui, on a fait les trois vaccins.
Non, moi, je ne suis pas vaccinée. Oui, moi, je suis contre le vaccin. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je vais me vacciner ou pas. En tout cas, mon mari les a fait. Et moi, je suis contre le vaccin. Ouais. Oui. Parce qu'il y a des effets indésirables sur les vaccins et qui ne sont pas pris en charge par la CMU, par la Sécu. Non, pas du tout, du tout. Et vu que j'allaite, du coup, je ne sais pas si ça va donner quelque chose au bébé ou pas. Pour cela que moi, je n'ai pas fait le vaccin. Après, je ne motive pas les gens d'aller pas se vacciner. Chacun a son propre choix. Mais moi, je ne me vaccine pas. Je ne sais pas si je vais me vacciner, mais pour l'instant, non, je n'ai pas fait aucun vaccin. Oui. Et en plus, tous les jours, il y a de nouveaux variants qui circulent. Alors, je me demande, est-ce qu'on doit fabriquer chaque variant son propre vaccin ou bien le vaccin, c'est tous les variants? Parce que tous les jours, bien, toutes les semaines, il y a un autre variant, un autre virus, en fait, qui circule. Qui change. Tout le temps, il y a des autres virus qui circulent, qui changent. Alors, on ne sait pas si le vaccin, c'est pour tous ou bien si c'est pour chaque virus. Alors, voilà, c'est pour cela que... Voilà.
C'est ça, votre inquiétude?
Oui, oui.
J'ai changé un autre sujet. Concernant la guerre de l'Ukraine, on vous en parle un petit peu?
Oui, on regarde les infos. On est tout le temps, on regarde.
Vous êtes inquiète?
Beaucoup, oui, beaucoup. Je m'inquiète parce que quand on a... commencer une vie du jeune âge, d'un coup que ça bascule, qu'il faudra encore recommencer une vie ailleurs, c'est choquant. C'est, voilà.
Il y a un impact en France dans le domaine de tout ce qui est le pouvoir d'achat, quand vous allez faire vos courses et tout.
Oui, tout a augmenté maintenant. Tout a augmenté. Avant, ils disaient que c'est par rapport au Covid. Et maintenant, tout a augmenté par rapport à la guerre en Ukraine. Parce que, ils disent qu'il y a des produits qui sont fabriqués là-bas, que voilà, ça sera en pénurie ici en France. Et maintenant, je vois dans des magasins, tout le monde fait du stock de ces choses-là.
En tout cas, merci beaucoup. Hein.
Oui.
Merci, merci.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa.
Merci Farid, c'est vraiment très intéressant, je pense, de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de faire parler les habitants.
Ce qui m'a interpellé, c'est leur priorité, c'est d'abord payer leur loyer, remplir leur frigo, et en troisième position, c'est la santé.
Voilà. Merci. Donc, c'était très intéressant et assez riche. D'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire pour Yazid, qui lui a gardé le masque. Il va nous dire d'ailleurs pourquoi il a le masque, lui.
Bon, déjà, je tenais à te féliciter par rapport à la qualité de ce micro-trottoir. Je trouve que c'est quand même très, très intéressant qu'on puisse donner la parole aux habitants. Moi, j'ai été un peu estomaqué par ce que j'ai entendu. Hein. Honnêtement, je vois les habitants et je vois les gamins comme ils grandissent entre le Covid, le masque, la guerre en Ukraine. Tout est anxiogène. Et si on rajoute les problématiques liées au territoire, au quartier, à l'habitation, à l'insécurité, à la drogue... Chapeau aux mamans, chapeau aux papas, chapeau aux assos, chapeau à tous ceux qui travaillent, qui gardent le sourire. Ça, c'était mon message du cœur. Après, concernant la problématique de la Covid, pourquoi je garde le masque? Tout simplement parce qu'encore une fois, il y a le virus qui circule. En l'espace de 15 jours, il a gagné quand même plus de 30%. On était à quasiment à 70 000 au 11 mars et on est à ce jour à 167 000. Avec une progression qui va être, à mon avis, beaucoup plus importante. Je pense, si je peux émettre une critique, que ça a été une erreur de tomber le masque trop tôt. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc je me cache derrière l'OMS. Donc c'est facile pour moi de parler derrière eux. Mais encore une fois, on est quand même dans des schémas qui sont de l'ordre du fantasme. Mais qui mérite d'être déconstruit. Par exemple, lorsque la maman vous dit par rapport au fait qu'elle donne le sein, est-ce qu'elle va transmettre le virus par le biais de la vaccination à son enfant? Parce que c'est ça son inquiétude. Sur les effets secondaires, donc c'est ce qu'on a fait pendant quasiment plus d'un an, un an et demi, on se rend compte que le travail mérite encore une fois d'être continué sur comment déjà comprendre ce que c'est que le virus, ce que c'est qu'un vaccin, et tout ce mécanisme qui est peut-être savant, scientifique, mais qui mérite d'être décortiquer, expliquer et de comprendre aussi les craintes, parce que là effectivement ce sont des craintes qu'on avait eues auparavant, notamment le fait d'être enceinte ou le fait d'allaiter. Mais je pensais qu'au travers de l'actualité, au travers des informations, au travers même des actions de médiation, cette crainte était en arrière et qu'on avait plutôt des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de travail à faire.
Tout à fait, des idées qui sont bien ancrées, hein, donc, et auxquelles certaines personnes ne tiennent absolument pas à changer d'opinion. Mmh. Je voudrais voir un peu, au niveau de la réaction tant de Maurice que de Guillaume, voir un peu si, au niveau, dans leur environnement professionnel, quelle est la situation ? Est-ce qu'ils parlent du virus ? Est-ce que le virus est ancré ? Est-ce que les salariés ou bien les usagers portent-ils les masques ? Comment ça se passe-t-il ? Alors, structures respectivement.
Déjà, parce que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure concernant l'éducation populaire et les centres sociaux, mais les centres sociaux ne sont que des relais des associations, des institutions, en tout cas des habitants. Et quand vous disiez oui, mais qu'en est-il de cette éducation populaire ? Je pense qu'effectivement, les institutions que sont les nôtres, on a un peu loupé ça. On a un peu raté un petit peu sous prête. Alors, on aura plein d'excuses et de raisons de dire qu'on nous a amené sur ce champ-là les financements, etc., etc., et que quelque part, on a laissé tomber l'éducation populaire. Mais ce que disait Farid, le président de l'association, en fait, la question de l'éducation populaire, elle est aussi là. Elle est aussi l'éducation populaire, ce n'est pas forcément des savants, des sachants qui vont venir dire, ce sont aux habitants ce qu'ils doivent faire. C'est pour nous, en tout cas, l'éducation populaire, c'est une forme de promotion en interne par les pairs, PAIRS, et que des habitants peuvent dire à d'autres habitants, voici ce qui se passe dans la réalité, et déconstruire peut-être des schémas que beaucoup d'habitants entendent au pas des tours, dans les médias, etc., etc. Donc moi, je pense qu'effectivement, votre action et l'action des associations comme les vôtres, elle est tout à fait première et qu'elle doit être soutenue, privilégiée, accompagnée, développée. Voilà, parce qu'effectivement, on sait très bien que toutes les campagnes qui ont pu être mises ne vont pas jusqu'au bout parce que les gens ne maîtrisent pas les créneaux, ne maîtrisent pas le langage, ne maîtrisent pas toutes ces difficultés dans la communication. Alors que communiquer entre pairs, entre familles, entre habitants, entre anciens militants, entre nouveaux militants, entre nouveaux arrivants, sur cette question-là, c'est là où le message peut passer. Et je pense que nous, les centres sociaux, on est au cœur de ce combat-là. Pour moi, c'est un combat qui malheureusement, ces dernières années, c'est un peu délité et qu'il faudra, vu que tout ce qui nous attend...
Oui. Effectivement, Guillaume ?
Je rejoins ce que dit Maurice. C'est vrai que je pense qu'on aurait dû faire mieux sur tous ces sujets. Après, c'est vrai qu'on est dans des situations et des quartiers où genre, les sujets sensibles et terribles s'accumulent, se succèdent, l'actualité bouscule l'actualité. Et je ne parle pas que du Covid et de la guerre en Ukraine. Hein, sur un territoire comme le nôtre, on a une actualité qui peut être parfois très anxiogène aussi. Donc c'est toujours de se dire où est-ce que je mets mes forces, où est-ce que je priorise. Je pense qu'en fait, c'est un combat sur le long terme. C'est-à-dire que la pandémie, elle est toujours là. Il va falloir continuer à garder des outils pour faire réfléchir, expliquer, sensibiliser, rassurer, ne pas faire comme si on oubliait. Et pourtant, on n'a qu'une envie, c'est de l'oublier, cette pandémie. Moi, j'ai le masque souvent au poignet dans la poche et je le mets quand j'en suis contraint. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu envie de l'enlever. Alors, je me suis vacciné, mes enfants sont vaccinés, etc. J'essaie de garder encore un maximum de gestes barrières, mais je me rends bien compte qu'il y a une envie forte de beaucoup de personnes qu'on croise, d'habitants, d'usagers, de salariés, de professionnels, qu'on vit un peu de lâcher tout ça. Et en même temps, on se rend compte que quand même les discours sont passés parce qu'on continue à voir dans la rue des gens qui circulent avec le masque. C'est-à-dire certains l'ont intériorisé, certains ont fait leur choix en se disant ben voilà, il y a un danger, je me protège moi-même. On va peut-être arriver à ça. Certains qui vont se protéger plus que d'autres. Mais je pense que ce qui me semble essentiel, c'est que voilà, rappeler que l'actualité soit toujours bien suivie et bien rendue accessible aux habitants. Quand une maman dit « Ah bon, la pandémie remonte ?» Oui, c'est vrai, elle remonte très fortement. Donc, pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise d'ici 2-3 semaines, il vaut mieux que tout le monde s'y prépare un peu, qu'on garde le réflexe des gestes barrières. Il y a peut-être des gestes de convivialité qu'on va devoir mettre de côté pendant encore longtemps. Et c'est très malheureux, ne plus s'embrasser, ne plus se prendre dans les bras, ne plus se serrer la main. Mais peut-être que c'est un moindre mal pour se préserver aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que centre social ? Continuer à maintenir le discours. Dieu sait qu'on a parlé avec Yazid, qui voulait qu'on en fasse plus. Si on lui disait oui, mais tu te rends compte, on a d'autres trucs à faire. Oui, mais en même temps, c'est une pandémie, il faut quand même rester vigilant. Bon, voilà, il ne faut pas arrêter. C'est un combat sur la durée.
C'est vrai que c'est une question très compliquée, l'information. Chacun d'entre nous, je pense, on a beaucoup, beaucoup regardé des émissions. À chaque fois, on entend des choses contradictoires. Et c'est vrai que c'est compliqué. Comment on peut faire pour avoir une information simple, intelligible ?
Bon, nous, le pari qu'on a pris, c'est simplement ce que tu disais, hein, de partir avec des personnalités issues de différents territoires dans lesquels on intervient. Donc on intervient du 9e jusqu'au 16e arrondissement. Et toutes les médiatrices ou les médiateurs sont issus de ces territoires qu'on a fait monter en compétences. Et puis, pour rappeler les gestes barrières, il ne faut pas non plus avoir un bac plus 20. Pour dire que j'ai été vacciné, que tout va bien et rassurer les personnes, il ne faut pas être un épidémiologiste. Donc c'est juste du bon sens. Et il faut aussi écouter, je pense qu'il faut avoir aussi cette humilité d'écouter les habitants, les craintes, d'écouter aussi les reproches. Parce qu'on est dépositaire, en tout cas pour nous, d'une action qui nous a été, d'un mandat, celui de l'ARS, d'écouter les reproches aussi des habitants sur l'inégalité en matière d'accès aux soins. Ils te disent, pendant des années, on a été le trou noir, on nous a mis de côté, la santé, on s'en foutait. On voyait les quartiers populaires que par le prisme, soit de la violence, soit du foot, soit du clientélisme ou autre. Et puis d'un coup, vous venez vers nous et vous nous dites qu'il faut se faire vacciner. Je comprends que pour les habitants, ça puisse être déconcertant. Alors nous, on s'inscrit sur la durée. Ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu disais aussi sur l'éducation populaire, c'est ce qu'on va faire pendant... Et j'espère qu'on a réussi quand même à mettre en lumière auprès des institutions qui avaient toute une partie de la population qui était invisibilisée, en tout cas en matière d'accès aux soins, et qui avait besoin quand même qu'on revienne autour de la prévention, autour de l'explication, autour de l'accompagnement à la santé, parce qu'il n'y a pas que ça, l'accompagnement à la parentalité, l'accompagnement à la lutte contre les différentes addictions, l'obésité, la lutte contre les cancers, les différents cancers. Vous avez des femmes qui ne se font pas dépister, vous avez des gens qui ne vont pas voir le médecin parce qu'ils vous disent que c'est trop long, donc il y a des non-recours. Donc nous, on va essayer de travailler avec les différents acteurs du territoire, que ce soit la maison régionale de santé de Malpassé, la PHM qui envisage de s'implanter dans ce secteur, et d'autres structures pour essayer justement de rationaliser l'offre médicale, d'apporter une information claire aux différents acteurs que sont les centres sociaux et les petites structures associatives qui fonctionnent qu'à base de bénévoles, avec ou sans locaux. Donc on va essayer vraiment de leur apporter cette information qui soit claire, cette orientation, cet accompagnement. Et si on peut en tirer des leçons par rapport à la Covid, c'est que l'expertise, l'information, lorsqu'elle vient de manière verticale, n'est jamais bonne. Et les derniers mètres en matière de santé publique, ce n'est pas un administrateur ou quelqu'un qui est dans une institution qui va le faire, ce sont les assos, ce sont les personnes ressources qui vont le faire, et donc il faut leur donner toute cette considération.
Une autre question concernant ce terrain, c'est à savoir, il y a eu un nouveau vaccin. On pensait qu'avec ce nouveau vaccin qui a été fabriqué plus traditionnellement, qu'il y aurait eu beaucoup moins de méfiance vis-à-vis du vaccin. Qu'en est-il et qu'est-ce que tu peux... Que peux-tu en dire ? Parce que l'ARN messager, c'était une nouvelle, quelque chose de tout à fait nouveau, même si c'est depuis 30 ans qu'il y a des recherches qui se font. Mais là, avec ce nouveau vaccin, pourquoi y a-t-il toujours ce refus ? Si je prends le cas, par exemple, de Martinique, ce n'est pas parce qu'il y a eu ce nouveau vaccin qui a été, ou en Guadeloupe qui a été envoyé que les Martiniquais ou les Guadeloupéens ont tendance à laisser plus se faire vacciner.
Tu sais, avec cette histoire de vaccination, je pense qu'on a créé des vaccinosceptiques, des personnes qui n'étaient pas au préalable vaccinosceptiques, qui par la force des choses le sont devenues. Des personnes qui n'étaient pas complotistes, par la force des choses le sont devenues. Il y a eu des retards à l'allumage, il y a eu des manquements, il y a eu des ratés, beaucoup de ratés. Il y a eu beaucoup d'errements au niveau des institutions. Au départ, les masques ne sont pas importants, finalement ils sont importants. Finalement, remettez le masque, levez-le. Faites-vous vacciner, mais pas sur ce modèle-là. Ce produit n'est pas bon. Donc je comprends les personnes qui sont complètement désabusées. Là où j'attire leur attention concernant les différents variants, c'est que si on revient de manière rétrospective, en arrière, on avait affaire à un virus qui était mortel, qui amenait les gens, même les plus jeunes, dans des situations très très compliquées. Moi j'ai eu, sur les premières personnes qu'on a prises en charge, des jeunes qui malheureusement sont décédés, et encore une fois on le cite, mais paix à son âme à Sid, et d'autres personnes qui ont fini en réanimation, en soins intensifs. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce sont surtout les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des facteurs de risque, des personnes âgées. Mais ça, ça a été rendu possible grâce au vaccin. Le fait qu'il mute, qu'il passe de corps en corps, il perd de son intensité grâce à la vaccination. Donc dire que le vaccin n'a pas été efficace, c'est faux. C'est éviter de regarder ce qu'était le début de la vaccination et ce qu'était le début de la Covid. que ce soit le Delta, que ce soit les différentes souches que nous avons eues. Mais ça fait partie de l'histoire. Je ne suis pas infectiologue, mais ça fait partie de l'histoire des virus. Ils ont tendance à s'amoindrir en fonction du temps et en fonction de la vaccination. Et j'espère que les gens vont continuer à le faire pour qu'on puisse justement tourner une bonne fois pour toutes cette page.
Concernant les gestes barrières, est-ce que vous ne pourriez pas penser à une idée simple, c'est-à-dire que le masque, ce n'est pas seulement pour le coronavirus, que comme d'autres pays le faisaient depuis très longtemps, quand il y a des problèmes respiratoires, etc., on peut utiliser le masque de manière automatique.
Alors, le masque, on l'a vu avec la recrudescence des gastro et la baisse des gastro lorsqu'on l'avait. Donc, on a effectivement, on voit l'importance du masque et des gestes barrières. J'attire juste l'attention, on va rentrer dans un mois saint pour les musulmans. Attention, vous allez venir faire la prière, donc ils vont souvent être, malheureusement, dans cet interquartier, on n'a pas des mosquées grandes qui peuvent éventuellement les accueillir, donc ils risquent d'être entassés, j'attire leur attention, et c'est un appel vraiment que je passe par le biais des ondes de Radio Galère. Prenez vos dispositions, prenez vos masques, et faites attention de ne pas contaminer, et souvent on sait que dans les mosquées, il y a des personnes à risque et des personnes âgées, donc faites attention à elles.
Les symptômes de la grippe et du virus sont-ils similaires? Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on les appelle, disent « Oh, c'est une simple grippe ». Et quand ils vont se faire dépister, on dit que c'est le virus, c'est le Covid qu'ils ont.
Ça touche les voies respiratoires, on est exactement sur le même mécanisme. Mais ça, on l'avait dès le départ, sauf que la Covid, il y avait la perte du goût, il y avait la fatigue. Là, on a la courbature. Encore une fois, il a été amoindri. Et tant mieux. C'est grâce à toutes ces campagnes de vaccination. Alors nous, on a opté pour des stratégies d'aller vers. On n'a pas opté parce qu'on sait que dans nos territoires, les vaccinodromes, les gens n'y vont pas. Prendre rendez-vous sur Maya ou Doctolib, les gens ne prennent pas. On continue à le faire. On a vacciné aujourd'hui 9 personnes. En moyenne, on vaccine aux alentours d'une cinquantaine de personnes par semaine. On a mené une action qui était intéressante. Je pense qu'on va la renouveler avec un bus parce qu'on a depuis peu, grâce au bataillon des marins-pompiers, eu l'acquisition d'un minibus qui nous permet, il est équipé de 2 salles à l'intérieur, qui nous permet de faire de la vaccination, mais pas que, des actions de prévention, donc à co-construire justement avec les Flamands, avec des différents acteurs du territoire.
Ce que tu mets en exergue, c'est aussi la problématique de fracture numérique, ce qui est certain. Ce n'est pas évident que beaucoup d'habitants puissent avoir à leur domicile déjà un outil informatique et ainsi que la possibilité de pouvoir dématérialiser, puisque répondre à cette demande de dématérialisation au fur et à mesure, de prendre des rendez-vous sur Doctolib, etc., ce n'est pas du tout évident. Donc moi, ma question, c'est que nous avons un exemple bien récent, c'est la Castellane. Bon, grâce à Zidane.
Non, je blague
quand je dis ça, Yazid. Entendons-nous bien. Et nous savons bien que c'est le professeur aussi Metellus qui a été un peu beaucoup. Non, tu peux rectifier. Hein, vas-y, puisque c'est
pas
toi
qui crois. Pas que. On faisait partie, en fait, faisait partie des actions et au même titre que la MRS. Philippe Metellus fait partie des médecins qui font partie de la Maison régionale de santé de Malpassé et il nous avait sollicité par rapport à ce projet. Ensuite, il y a des gens qui se mettent en avant. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se met à rentrer. Par contre, pour parler de ce projet, ce n'est pas la médecine que je défends. Pour ma part, en tout cas, la télémédecine font partie des recours, des derniers recours. En gros, moi, quand je donne des cours, notamment sur la téléconsultation et la télémédecine, je dis souvent aux apprenants, qu'ils soient professionnels ou étudiants, que la télémédecine, c'est comme un parachute de secours. À défaut d'avoir le premier parachute qui nous permet quand même de... Et ça, c'est la médecine qu'on aime avec un médecin en présence. La télémédecine, c'est éviter de s'écraser.
Mais c'est une façon de pouvoir répondre aussi à une préoccupation, ou bien dire qu'à un moment donné, je suis allé récemment au grand centre médical qu'il y a à proximité, mais au niveau d'accès en bas des oliviers, les cèdres et autres, il y a tout. Donc je me demande si effectivement il n'y aurait pas une action unitaire à avoir aussi sur le quartier. Parce qu'avec Guillaume, nous nous sommes entretenus des difficultés des enfants quand ils sont affectés de 10, quel que soit ce 10, mais il n'y a pas d'orthophoniste pour prendre des rendez-vous. Pour les kinés, c'est un peu la même chose. Et que peut-être qu'à un moment donné, c'est une des missions que nous pensons qu'il y a un défi à relever, me semble-t-il, par cette, accompagné par l'ensemble des acteurs sociaux, par les centres sociaux et autres, pour nous permettre d'avoir enfin quelque chose qui puisse tenir la route d'un point de vue médical et que ce soit à proximité, plus à proximité, parce que ce n'est pas évident de se rendre dans ce grand centre médical. Je ne sais pas si tu vois lequel dont je parle.
On a nos locaux qui sont là-bas.
Vous avez vos locaux. Donc, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants, par exemple, alors, de Grand-Saint-Barthélemy, qui peuvent
chiffres.
Se déplacer?
Alors, je vais te donner des chiffres très concrètement. Au titre de la permanence d'urgence de nuit, c'est 16 000 patients à l'année. C'est énorme. Pour te donner un ratio, l'Aveyron, c'est à peu près 35 000 patients pour un hôpital qui fonctionne 24 heures sur 24 avec trois équipes. Là, tu es de 19h jusqu'à à peu près minuit, 1h du matin. Au titre des consultations, parce que tu as un pool de 22 spécialistes, tu dois être aux alentours de 80 000 patients à peu près à l'année. Ce qui est énorme aussi. Maintenant, ce n'est pas suffisant au regard de la population et des problématiques. On va, si la mairie nous accompagne et si effectivement le projet arrive à bout, juste à proximité du musée de la moto, on va créer un centre médical qui va être un regroupement de médecins et de pharmaciens qui souhaitaient partir et qu'on a réussi à retenir justement pour créer cette offre médicale. Pour revenir sur la problématique du territoire de la Busserine et du Grand Saint-Barthélemy, la difficulté, elle est là, c'est qu'il faut pouvoir trouver des médecins qui acceptent de travailler en partenariat. Et là, je ne trahis pas un secret, on était en train de discuter avec les différents acteurs, potentiellement il y aurait un projet de centre médical au niveau des Flamands, mené par la PHM. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à bout ou pas ? Nous, en tout cas, on va appuyer, on va les accompagner, on va faire en sorte qu'ils puissent soigner autrement. Mais ça ne sera pas suffisant au regard des besoins et au regard des médecins qui vont partir. Je pense au docteur Béchara qui ne va pas tarder à partir, oui, et qui ne prend plus de patients. Je pense aux différents médecins qui sont dans le territoire. Oui, on est quand même sur une population qui doit être entre 7 et 10 000 habitants et qui ne va pas être couverte. La question pour nous, c'est de se dire et de sensibiliser aussi la population à aller vers le soin.
Oui.
Et donc, il faut qu'ils puissent, même si Carrefour, c'est pas très loin, se dire que derrière Carrefour, il y a un centre médical qui pourra nous accueillir aussi.
Oui, et oui. Donc effectivement, nous avons besoin aussi de nutritionnistes, parce que l'obésité, c'est un véritable problème aussi qui est extrêmement important. Récemment, il y a eu la journée, hein, concernant, il y a eu avec une permanence qui a été faite du côté des Égalades, hein, donc pour à l'occasion de la journée mondiale de l'obésité, où le constat qui a été établi, c'était de dire qu'en cours, dans les quartiers nord, dans les quartiers populaires, c'était là où il y avait un fort taux de personnes, d'habitants qui sont obèses, qui sont atteints d'obésité. Tu pourrais, oui ?
Alors juste, je vais apporter un peu du grain à moudre par rapport à ça. Concernant l'obésité et concernant les différentes politiques en santé publique, on est toujours dans l'injonction. Les habitants, on vient leur dire qu'il faut manger moins sucré, moins gras, moins salé. Ok. Je veux bien qu'on leur propose ce genre de conseils. Maintenant, quand vous allez à Carrefour Le Merlan, les produits les moins chers, ils sont gras,
sucrés et salés. Nous sommes d'accord.
Donc après, il faut juste arrêter d'être dans l'injonction. Être dans les chiffres, c'est bien. Vivre le quotidien des habitants, c'est mieux. Donc venir, je parle aux nutritionnistes, hein, venir accompagner une famille, rentrer au domicile, voir les habitudes, voir quels sont les freins, les difficultés, voir quels sont les éléments qui pourraient être changés, améliorés, c'est mieux. Et il faut travailler. Alors nous, on avait mené il y a à peu près 4 ans de ça, une action avec sur le territoire de Malpassé, je suis désolé, avec le club de foot de FCLM. On avait mené une action sur justement la malnutrition. Et on proposait aux familles, aux mamans, aux papas, et surtout aux mamans qui étaient beaucoup sédentaires, la possibilité de marcher, d'accompagner leurs enfants. Et donc on avait fait un petit parcours sportif, mais un parcours qui était en adéquation avec ce qu'elle faisait. Aller chercher le petit à l'école, aller chercher une baguette, aller au primeur à proximité, aller chercher le gamin. Et puis on a pu justement mettre en lien avec une partie médicale en leur disant, voilà, le fait que vous perdiez 2, 3, 4, 5 kilos, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour votre corps, voilà les retentissements que vous allez avoir sur votre hypertension, sur les articulations. Et on a pu justement évaluer notre action et on s'est rendu compte qu'au travers de cette action, les gens acceptent lorsqu'on leur explique exactement les bénéfices qu'ils peuvent avoir. Ils ne sont pas débiles, ils ne sont pas demeurés. Il ne faut pas venir dans un territoire en se disant qu'ils n'ont pas la possibilité de et avoir cette posture de professeur. Moi, ça me révolte.
Cela me permet de rebondir, Guillaume. L'objectif de la plaine des loisirs, qui est renvoyé aux colonnes grecques, était aussi qu'il puisse avoir un fameux parcours avec des activités, des possibilités pour les habitants de Grand-Saint-Barthélemy de pouvoir y accéder et de pratiquer quelques activités sportives, me semble-t-il. Si je me trompe, tu peux aussi.
Alors, je ne pense pas que tu te trompes. Bon, après, je suis Comme toi, c'est-à-dire je parle sur plan. Pour l'instant, la plaine des loisirs, ce sont des plans, des projections, des photos, etc. Bon, normalement, le projet est bien sur les rails. Il devrait voir le jour d'ici 15 à 18 mois. Et oui, dans ce projet plein des loisirs, il est prévu des espaces sportifs, parcours de santé, espaces de jeu, pistes de vélo, etc. Alors, c'est vrai que souvent, on pense en termes de sport et de jeu pour les enfants, en oubliant un petit peu les adultes. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire tout un travail d'accompagnement pour montrer aussi aux adultes qu'ils peuvent s'en servir. Bon, c'est pas toujours adapté. Tous les adultes n'ont pas envie de faire du skateboard, ni faire du vélo de descente, ni jouer au basket. Mais bon, on mène d'autres actions. Là, ça fait quelques années que nous, au centre social, Rania organise des groupes de sport avec des mamans. Et ça fait plusieurs années qu'elle fait participer des groupes de mamans à la Marseillaise des femmes, à la marche pour le Marseille Cassier, etc. Donc c'est ça, arriver dans une habitude de pratique sportive douce et adaptée, en disant l'idée c'est pas de faire les Jeux Olympiques, mais de bouger pour avoir un corps en bonne santé. J'espère que la plaine des loisirs va
voir le jour un jour.
Elle verra le jour, je pense, je suis confiant, mais oui, qu'elle sera utilisée, oui, à bon escient.
Maurice, désire intervenir?
Oui, en fait, pour compléter par rapport à la santé dans ces territoires qui sont vraiment... qui cumule plusieurs handicaps. Au niveau du centre social, comme vous le savez, on est une institution, mais on est aussi une association avec des habitants représentants. Et donc, on pense que, en tout cas, l'association s'est engagée à faciliter avec le tissu associatif toute installation de pôle santé. Il devrait y avoir un pôle santé là, donc comme vous en parliez tout à l'heure, tu disais, mais aussi, et on espère que ça va se faire et que le tissu associatif sera bien impliqué, parce qu'effectivement là, c'est complètement l'efficacité dans le discours, dans la promotion, dans l'éducation commune. Et on a, pour ce faire, on a aussi répondu, le centre social a répondu à un appel d'offres de la du département autour de la PMI pour aussi, là aussi, commencer dès le début à mettre en place des actions avec les habitants, les associations autour de la santé précoce, de la prévention précoce. On parlait de l'obésité, mais on parlait aussi de toutes les addictions, mais aussi un point que moi je souhaiterais soulever et qui sur d'autres territoires m'ont interpellé aussi personnellement, c'est la question de la santé mentale et psychique. Et que quelque part, la société qu'on est en train de nous préparer, là, avec ses discours sur une crise économique qui va arriver, une angoisse, comme vous disiez, autour de la guerre, cette crainte de l'autre différent, puisqu'il est un danger, forcément, et que nos petits, dès le départ, on leur dit attention, le masque, oui, l'autre, il est peut-être porteur d'eux. J'ai un peu peur de l'avenir. J'ai un peu peur qu'on construise une société où on va avoir de plus en plus de familles, de jeunes, un peu d'enfants un peu en difficulté psychologiquement parlant, psychiquement parlant. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais je me dis. Et nous, notre credo au niveau des centres sociaux, c'est quand même d'accompagner un meilleur vivre ensemble, et que si on ne peut pas aider ces populations-là, c'est compliqué. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à l'appel d'offres là, du département. Ce sera pour 2023 pour une PMI dans nos locaux, mais ça va contribuer à un pôle santé en admettant, en espérant que les soignants puissent aussi venir sur ces territoires, parce qu'on a vu quand même beaucoup de désaffections ces dernières années pour des questions de sécurité ou d'insécurité.
Un peu d'utopie. On disait qu'il fallait faire de la prévention, notamment donc au niveau de nutrition. Or, il se trouve que les boissons qui ne sont pas bonnes, elles ne coûtent pas cher du tout. Et que la bouffe qui est terrible pour la santé, elle ne coûte pas cher du tout. Est-ce que, en termes de taxes, est-ce qu'on ne pourrait pas penser de taxer ces éléments qui sont vraiment catastrophiques pour la santé des gens?
Tu veux te mettre à dos tous les Algériens, c'est ça? Tous les Maghrébins qui mangent sucré, dont moi d'ailleurs.
Bon, une pause musicale. Nous avons des talents aussi des cités, avec l'entremise de Mourad, le fameux pianiste, et justement qui interprète un morceau de piano qui s'intitule « Ma cité ». Galère sur 88.4, les échos du Grand Saint-Barthélemy.
«
Mourad, nous t'écouterons la fois prochaine, hein, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous primons, nous privilégions un peu la parole de nos invités. Nous abordons la seconde problématique, qui est celle de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'à force de parler de guerre nucléaire, de ceci, cela, il n'y a-t-il pas une grosse, très grande inquiétude au niveau des habitants ? Est-ce que vous ressentez quelque chose de cet ordre-là ? Virus plus la guerre, guerre qui est là, qui est omniprésente et qui se déroule en plus en Europe, à nos portes.
On aborde la guerre, mais c'est moins sur le volet violence. Enfin, j'ai pas eu de retour de crainte sur le fait que la guerre soit à nos portes, que ça puisse dégénérer, etc. Là, on rentre dans des considérations un peu géopolitiques et géostratégiques. Mais par contre, beaucoup de retours sur les risques de pénurie, d'augmentation des prix, des premières nécessités, etc. La question du blé, question du gaz. C'est avec tout de suite, ça a touché les gens de se dire qu'est-ce qui se passe, les prix vont augmenter à cause de cette guerre, mais pourquoi est-ce qu'ils font la guerre, etc. Pour l'instant, c'est vraiment les premiers échos. Pour le reste, personne ne craint de devoir partir à la guerre aujourd'hui ou de prendre une bombe sur la figure. Enfin, du moins, je n'ai pas eu ces retours-là.
Oui, Maurice.
Alors, nous, ce qu'on a pu... avoir comme retour de certains habitants, mais plutôt des habitants engagés, hein, des habitants qui représentent, qui sont au conseil d'administration ou des bénévoles d'activité qui sont déjà impliqués, mais qui sont les porte-parole des habitants de ce territoire. C'est un peu une frustration d'être dans des territoires un peu discriminés. Allez, je vais utiliser ce mot-là. Et effectivement, de dire, mais on ne comprend pas, oui, c'est dramatique tout ce qui se passe, mais comment ça se fait que subitement, certains bailleurs, je ne citerai pas de nom, arrivent à trouver des logements, qu'on trouve 100 000 places en France de logements, alors qu'au quotidien, dans nos villes, dans nos quartiers, on a au quotidien des personnes qui n'ont pas à se loger. Donc ça renforce ce sentiment de discrimination par rapport à la santé, par rapport à la citoyenneté, par rapport à l'égalité, etc., etc. C'est vraiment une vraie question qui se pose. Alors nous, on a des discours, on essaie, parce qu'on essaie de ne pas faire trop de politique, mais bon, on essaie d'avoir un discours le plus neutre, le plus objectif possible. Mais on est aussi des militants, citoyens. Et même si on ne veut pas trahir le fond de notre pensée, très souvent, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, puisque vous m'interviewez en tant qu'individu, en tant que citoyen, effectivement, c'est assez frustrant de voir ça, d'entendre ça et de se dire, mais effectivement, ils n'ont pas totalement tort. La seule chose que je trouve un peu positive là-dedans, et je ne fais pas un trait d'humour ni une pirouette, c'est que je me dis, il y a certains hommes politiques qui ont utilisé le fait qu'en France... Je parle du territoire français d'une manière générale. On n'avait plus la capacité d'accueillir des migrants parce qu'ils venaient de certains territoires et que finalement, on peut le faire. Donc, c'était un discours qui était simplement pour diviser, pas du tout pour faire fédérer. Quoi.
Donc, il y a ce ressenti de deux poids, deux mesures, en quelque sorte. Bon, voilà. Donc, oui, Yazid, tu voulais peut-être intervenir ?
Alors, nous, on est intervenu au titre de notre action dans l'hôtel où sont accueillis les réfugiés
ukrainiens.
Bon, c'est pas Jojo ce qu'ils vivent, et honnêtement, on est de tout cœur avec eux, parce que partir de son pays, voir des gens se faire tuer, donc c'est pas agréable. Néanmoins, je te rejoins, hein, sur le sentiment de deux poids deux mesures, où effectivement, on s'est rendu compte que on était en capacité justement de trouver de l'argent, de l'accompagnement, et tant mieux. Alors moi, ce que je dis aux gens qui justement m'évoquent ce deux poids deux mesures, je dis il faut tout faire pour qu'ils puissent être la référence en matière d'accueil, pour que demain, on puisse justement envoyer ce cahier des charges à l'État pour d'autres pays qui seront malheureusement dans la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là, effectivement, c'est parce que sinon on se révolterait en permanence et on deviendrait fou. Et on devrait même schizophrène, parce que si on commence à écouter, d'autres vont vous dire ils sont bleus aux yeux bleus, ils sont chrétiens, et donc là on rentre dans toute la fachosphère, et moi je ne pas prêter le flanc à ce genre de...
Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a une... Il faut éviter de tomber dans le piège. Les retours que j'ai, c'est de dire oui, mais quand même, on a déjà des difficultés. Alors, Oui, on comprend, les réfugiés sont eux-mêmes dans des situations très critiques, précaires, très... mais quand même, voilà, on a des familles dans le quartier qui ont aussi des besoins. Donc là, je rejoins Yazid, faut parier à l'urgence, accueillir les gens, ils ont quitté leur pays sous les bombes avec des valises et tout ça. Et j'aime bien cette idée que ça devienne l'étalon, en disant, mais prochaine vague migratoire, prochaine vague de réfugiés, on ne regarde pas la nationalité, on ne regarde pas le continent, on accueille de la même manière. On a les moyens, on est quand même un pays riche, on peut le faire. Les Afghans, les Irakiens, les Syriens, les Érythréens, on peut le faire. Voilà, que toutes les personnes qui débarquent avec un statut de réfugié ou en tout cas dans cette grosse précarité soient accueillies de la belle manière et pas comme des parias, quoi.
Oui, donc nous parlerons à un autre moment parce que l'heure tourne concernant l'impact, pour revenir aux habitants, sur l'impact économique et l'anxiété qui règne pour permettre aux habitants de pouvoir vivre correctement, de pouvoir s'alimenter correctement, ce qui est extrêmement problématique et qui accentue un peu leur difficulté de gérer le quotidien qui n'était déjà pas simple. Donc la question qui se pose et que je me pose, c'est la solidarité après Covid. Il y a eu un grand mouvement de solidarité, le Covid se continue, l'a accentué par la guerre. Où en est la situation de précarité des habitants et comment les structures qui sont sur le terrain peuvent-ils peut-être essayer d'anticiper un peu cette demande qui va croissant, mais décroissante, bon, et parce qu'effectivement ça peut nous interroger. Comment pourrions-nous y faire face ?
Alors moi je vais être un peu pessimiste, parce qu'effectivement ce que tu disais tout à l'heure se profile une crise économique, et lorsqu'on l'a vu lors du premier confinement, la solidarité elle est venue des habitants. Ce sont les habitants qui n'avaient pas grand-chose, qui ont participé à donner à d'autres personnes qui n'avaient rien. Et trouver des structures qui aient en capacité de porter une aide alimentaire ou un accompagnement, honnêtement, à part la volonté des habitants et la volonté de certaines assos de se réunir en collectif et de porter justement cette aide, voilà, moi je suis un peu inquiet en me disant que potentiellement, si les gens n'ont plus grand-chose, ben, ça va être très très compliqué, même si je l'ai fait généreux.
Oui, effectivement, solidarité, c'était plus de l'entraide entre les personnes qui n'avaient peut-être qui disposaient de peu de moyens qu'autre chose. Là, je ne sais même pas si cette solution pourra se remettre en place compte tenu de la situation qui est réellement critique et de plus en plus critique. Je suis un optimiste pessimiste. Moi, je pourrais me définir ainsi aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que concernant... Oui, tu avais quelque chose peut-être à dire ? Oui. Alors nous avons un appel, mais c'est Henri. C'est Henri ? Oui, parce que là nous passons directement au communiqué, donc vous nous excusez de peut-être aussi rapide. Oui, allô ? Oui, Henri, bonjour. Allô, oui, bonjour Henri. Alors là, nous avons coupé assez rapidement un peu, nous n'avons pas encore terminé réellement, mais nous reviendrons un peu là-dessus. En reparlant d'un ouvrage, Le Manifeste pour les produits de haute nécessité, que certains d'entre vous ont dû lire à l'époque de 2009, écrit par Édouard Glissan, Chamoiseau et bien d'autres.
Je vous entends assez mal. Crise.
Allô, Henri ? Oui.
Oui, oui. Oui,
bonjour, Henri.
J'entends assez mal.
Oui, tu entends assez mal. Donc, Henri, de l'espace culturel Busserine. Bonjour, Henri.
Bonjour.
Oui, alors tu à l'écoute, bon, pour les auditeurs et auditrices des Échos de Grand Saint-Barthélemy. Alors nous t'avons sollicité parce que nous pensons qu'il est toujours important de pouvoir communiquer qu'est-ce qui se passe sur le quartier de Grand Saint-Barthélemy d'un point de vue culturel déjà. Et c'est bien et important que tu puisses aussi nous dire un peu qu'est-ce qui se passe à l'espace culturel Busserine, probablement pour que les habitants puissent investir de plus en plus cet espace qui est à eux aussi.
Allô, oui, alors, j'entends pas tout très bien ce que vous avez dit, mais ce que j'ai bien compris, c'est que ce que vous aviez envie, c'est que l'espace culturel industrie puisse proposer des choses au quartier. Ben, on est là pour ça et depuis longtemps, et on continue sur cette route avec des difficultés que tout le monde connaît avec le dernier mandat, mais que maintenant on passe par-dessus et on propose une programmation à peu près normale, même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, au mois d'avril, on va vous proposer quand même un super concert de jazz manouche avec Angelo de Bar et Hispanic Jazz avec la masterclass. Ça, c'est ce week-end. Il reste quelques places pour samedi. Et il faut absolument venir parce qu'Angelo de Bar, c'est l'un des grands maîtres du jazz manouche qui interprète Django Reinhardt, entre autres. Mais pas que, puisqu'il y a également ses propres œuvres. Au programme également au mois d'avril du théâtre amateur, on accueille pour la première fois le Festival National de Théâtre Amateur avec un spectacle qui s'appelle Match au sommet, qui va être une confrontation entre Dieu et Satan autour de la thématique de l'argent présentée sous une forme ludique qui pose de grandes questions justement sur c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons, quelles sont les contradictions et quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et puis après encore, nous allons accueillir un autre festival qui est celui du théâtre handicapé, mais pas que, puisque c'est un projet qui mêle à la fois les personnes valides et non valides autour de spectacles forts. Ça, ce sera le 22 et 23 avril. Ensuite, on va aller rendre visite aux enfants dans les maternelles avec un très joli spectacle qui s'appelle « L'histoire d'une mouette » et d'un chat qui lui a appris à voler. Mais ce qui est important pour le quartier quand même, c'est qu'on prépare aussi un festival d'humour qui permet à des jeunes de s'exprimer, de venir monter sur scène, de se confronter au public. Et ça, ce sera au mois de mai, début mai, le 9 mai, avec des castings qui ont commencé, qui continuent, on en aura un, le 13 avril prochain. Voilà grosso modo pour les jours à venir, on va dire. Allô ?
Allô, oui. Donc, merci beaucoup, Henri. Donc, et comme il y a pas mal d'activités, c'est pour inviter et convier les habitants à ceux qui puissent se déplacer et aller à l'espace culturel Bussorine. Donc, nous ferons le relais de la programmation, surtout pendant les vacances de Pâques, pour permettre aux enfants de pouvoir se rendre à l'espace culturel Bussorine, voire avec leurs parents aussi, pour se distraire. Sachant que, merci, Henri, de ton intervention. Nous allons poursuivre avec les communiqués et interpeller tant Guillaume que Maurice pour voir un peu que proposent les centres sociaux à l'occasion des vacances de Pâques, même si, comme le disait Yazid tout à l'heure, cela tombait aussi en pleine période aussi de carême, quasiment. Alors Guillaume, au centre social Agora ?
Alors au centre social Agora, les vacances de Pâques, effectivement, qui sont dans 10 jours maintenant, on va principalement ouvrir le centre de loisirs pour les enfants et effectivement on va réussir à accueillir les enfants dans les locaux du centre social. Ça fait 8 mois qu'ils étaient accueillis dans les écoles du quartier. Donc ça, c'est, je crois qu'ils vont être contents d'y retourner et les animateurs aussi. Un petit peu avant ça, ce samedi, le samedi 2 avril, une partie des enfants du centre de loisirs vont participer au carnaval sur le Vieux-Port.
Ah oui,
avec toute une
carnaval de Marseille.
Exactement, avec des costumes qui ont été préparés depuis plusieurs semaines. Donc ça va être un joli moment où là, on rassemble les enfants de plusieurs centres sociaux et plusieurs associations. Et au cours de ces vacances, donc des activités pour les ados, quelques sorties famille aussi. Voilà, donc les animateurs y travaillent, ça se programme. On est en train de boucler les inscriptions. On va dire la vie continue et chez nous, les périodes de vacances sont toujours des périodes très chargées.
Oui, merci Maurice. Alors la MFA et Flamand Iris.
Oui, pour les structures qui sont gérées par l'association, l'association, comme vous le savez, est en DSP, donc elle est ouverte. Et il y aura des activités aussi bien à la MFA qu'au Centre social des Flamands. Les programmes sont en train de se boucler, comme disait Guillaume, c'est principalement autour des centres de loisirs, des accueils à jeunes, ados jeunes qui sont en train de les programmes sont en train de se finaliser où il y aura des accueils à la journée. Les deux spécificités qu'il peut y avoir, c'est que le dernier vendredi des vacances scolaires, puisque vous parliez de période de jeûne, donc nous ferons donc une petite soirée le vendredi 22 de mémoire en présence des femmes, des groupes femmes, mais aussi des ados, des jeunes, des hommes s'ils veulent aussi, pour préparer une petite fête, parce qu'on sait très bien que cette période aussi, hormis tout l'aspect religieux, c'est une période qui permet le vivre ensemble. Tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour l'actualité plus sur la vie associative, Donc, l'information que je peux vous donner, c'est que nous avons relancé une initiative qui existait il y a quelques années et qui a été fait par, qui avait été animée par mon prédécesseur avant même Elisabeth, je crois que vous connaissez bien, l'ancien directeur.
Daniel
Et Lino. Daniel, loi de, des cafés partenaires. Et donc, on relance voilà, les cafés partenaires le jeudi 7 avril à partir de 8h30, comme il le faisait avant. Oui. On va essayer de faire aussi bien. Ça a marché très, très bien, ce qui paraît. Après, le Covid est arrivé, tous les changements à la direction et c'était compliqué, les équipes aussi. Ont... Et donc, on a invité pas mal tous les partenaires. L'idée, c'est simplement de refaire connaissance donc, et de faire connaissance et reconnaissance. C'est-à-dire qui fait quoi, mobiliser les actualités du centre social, les actualités des différents partenaires et voir encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le tissu associatif sur ce territoire.
Donc. Merci beaucoup. Autre communiqué, l'association Le Grand Bleu propose des cours de natation pendant les vacances de Pâques à la piscine de la Busserine. Donc le lieu est à proximité, donc c'est important que les enfants puissent être inscrits. Ce sont des cours qui sont gratuits et s'adressent aux enfants de 6 à 12 ans. Cela se déroule du 11 avril au 22 avril, de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 11h à midi, donc différents groupes, différentes heures, ainsi que de 13h30 à 14h30, 14h30 à 15h30, ainsi de suite, et de 15h30 à 16h30. Pour toute information, vous composez le 06 23 31 32 77 ou par mail b.timrich, timrich c'est b.t.i. mricht@gmail.com. Voilà pour les informations. Normalement, il devrait y avoir, oui, ça c'est à la piscine, nous attendons aussi l'intervention de Serge Reynaud, hein. Je ne sais pas si nous sommes arrivés à l'avoir, parce qu'il devait nous entretenir un peu des démarches, c'est Sud Radio, Sud PTT, dans la mesure où, comme vous le savez, vous ignorez peut-être l'information que ces territoires sont toujours aussi discriminés, dans le sens où vous payez, par exemple, pour obtenir un colis, le colis jusqu'à votre domicile. Or, depuis quelque temps, la Poste ne disait, selon la direction, selon les informations que nous avons reçues, que la Poste refusait qu'il puisse y avoir la livraison des colis à destination des zones dites sensibles. Donc c'est quelque chose qui est absolument impensable, discriminatoire, que ce soit un service public qui puisse refuser de rendre service, d'être dans sa vocation, qui devrait être aussi, qui devrait mettre son service. Oui, allô, oui. Allô, oui, Serge. Bonjour.
Allô.
Allô, oui, bonjour,
oui,
Serge.
Bonjour.
Oui.
C'est Serge.
Oui.
Ça va?
Oui, tu peux intervenir. J'ai exposé un peu comment nous nous sommes rencontrés, le pourquoi du comment et où en est un peu l'action menée par Sud pour obtenir un peu plus de l'égalité entre les territoires dans la distribution des lettres et des colis, par exemple. Oui, nous attendons. Tu peux intervenir?
Oui, ah, pardon.
Oui.
Bonjour à tout le monde. Et merci pour cette invitation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en tant que facteur, en tant que militant syndicaliste aussi, et évidemment l'égalité de traitement devant le service public, un traitement équitable, égal pour tous et toutes. Et là, on a un petit souci avec la distribution des colis dans le 14e arrondissement. Vu que non seulement cette distribution est sous-traitée là où elle a lieu, ce qui est déjà un premier truc assez négatif, et la seconde chose, encore plus négative, c'est que il y a ce qu'on appelle dans le 14e arrondissement des zones non livrables, d'après la Poste, c'est-à-dire des endroits où les facteurs-factrices ne se présentent pas du tout pour distribuer les colis, c'est-à-dire que les gens sont avisés d'office. Il doit se retrouver dans les rares bureaux encore ouverts dans le 14e. On passe notamment à la surcharge et aux queues absolument monstrueuses devant le bureau de Saint-Barthélemy pour aller chercher les colis, faute de livraison faite par la Poste. Alors depuis quelque temps, effectivement, on bataille et on espère que ça sera avec l'aide des associations du 14e arrondissement et des usagers du 14e arrondissement ainsi que des élus pour récupérer ce travail non fait et le livrer dans un certain nombre des cités qui sont actuellement non livrées et qui pourraient l'être demain par les facteurs. Donc c'est en cours. On a déjà rencontré des élus, on a déjà pris des liens et des contacts avec des associations. On en discute, on en a discuté avec la direction du colis qui n'est pas fermée à cette idée-là parce que tout simplement, eux, ça change pas grand-chose pour eux dans le sens où ils ne le distribuent pas. Donc le faire basculer sur les facteurs du 14e arrondissement ne les dérange pas, mais on a encore des étapes à franchir et on aurait besoin vraiment d'appui et de soutien pour y arriver. C'est-à-dire que là, on est en pleine période pour nous de réorganisation de nos services. Donc c'est le moment, vraiment le moment, où il faut faire intégrer ce travail-là pour qu'à nouveau les colis soient distribués normalement dans le 14e arrondissement. Actuellement, il y a eu déjà un transfert de fait dans le 5e arrondissement de Marseille. Il était entièrement sous-traité et c'était la catastrophe, avec un taux d'avisés, de pertes vraiment catastrophique. Ce trafic-là, depuis 2 mois, a basculé chez les facteurs, donc avec des éménagements, évidemment, qu'il faut réaliser. Et là, avec ce petit recul de 2 mois, c'est très positif. Parce qu'évidemment, les facteurs, les factrices passent tous les jours, 6 jours sur 7, connaissent très bien les usagers. Donc, ça permet de distribuer ces colis-là qui étaient mal distribués auparavant. Donc, nous, on voit ça dans le 5e arrondissement de Marseille. On se dit, ça marche. Tant mieux. Et nous, on veut faire la même chose dans le 14e arrondissement. Et franchement, on ne comprendrait pas pourquoi on nous mettrait des bâtons dans les roues. Là, ça serait une rupture de l'égalité qui serait parfaitement inacceptable. Donc nous, on espère vraiment arriver à avancer là-dessus avec l'aide de chacun chacune pour que les colis soient à nouveau distribués dans le 14e arrondissement normalement. Alors pas partout, bien entendu, hein, on va pas faire de démagogie. Il y a certains endroits qui sont compliqués, qui restent compliqués, on pense notamment aux Rosiers, voilà, faute de boîtes normalisées, et avec les dégradations qu'il y a pu avoir, bon ben voilà, la livraison des colis ne sera pas possible. Mais par contre, on a identifié un certain nombre d'endroits où cette distribution, demain, elle serait possible, et je pense que ça serait bon pour les usagers, bon pour les facteurs, bon pour l'emploi, bon pour le service public.
Merci beaucoup Serge pour ton intervention. Ce qui est important, en plus un peu plus scandaleux, je tiens à souligner, c'est que lorsque les habitants demandent à ce qu'ils puissent avoir un colis qui soit livré à leur domicile, c'est qu'ils payent déjà aussi pour cette livraison à leur domicile et non pas pour aller faire la queue à la poste pour recueillir, pour Exactement. Aller chercher leur colis. Voilà.
Il y a des personnes âgées très fatiguées, des personnes malades, oui. Des personnes handicapées qui ne peuvent pas malheureusement se déplacer.
Oui.
Exactement, et ça porte un préjudice grave, et il faut se dire aussi que pour nous, facteurs, quand on distribue uniquement des avis de passage, c'est aussi extrêmement dévalorisant pour nous. C'est-à-dire que voilà, on connaît les gens, on les voit, et on leur remet en main propre un avis de passage en disant, désolé, c'est pas nous qui livrons les colis, on est tributaire de ça, donc c'est quand même quelque chose d'aussi négatif pour nous. Négatif pour la population, mais négatif aussi pour notre professionnalisme. Donc on demande vraiment qu'à faire ce travail-là pour rendre service à nos usagers, à ceux et celles qu'on côtoie vraiment tous les jours. Je pense que ça serait vraiment quelque chose où tout le monde gagnerait, en fait. Vraiment, ça serait une jolie avancée et un beau symbole aussi contre la stigmatisation de certains quartiers populaires où on a l'air de dire qu'il n'y a rien à faire, que c'est dégradé, que ça change pas, etc. Ça a évolué positivement dans certains endroits et je pense que ça vaut le coup de le valoriser aussi de cette manière-là en disant, ben voilà, la distribution des colis reprend dans certains quartiers. Je pense que le symbole, il serait fort, il serait puissant et on pourrait le partager et être vraiment gagnant-gagnant dans cette remise en distribution des colis dans le 14e.
Eh bien, je te remercie Serge. Bon, donc l'information a circulé ou va circuler sur le quartier et nous aviserons avec les différents partenaires quelle aide et quel est le support, le soutien que nous pouvons aussi apporter à la démarche que vous avez dans l'intérêt des habitants du Grand Saint-Barthélemy, du 14e, puisque nous parlons du 14e. Merci, merci beaucoup. Okay. À bientôt, en merci espérant pouvoir se rencontrer. Allez, bon courage.
À bientôt. Très rapidement, oui.
Bye bye, merci.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Merci.
Merci à vous.
Alors, nous remercions Guillaume. Bien le bonsoir. Donc, vous allez continuer à travailler ainsi que Maurice. Votre journée n'est pas encore terminée.
Tout à fait.
Mais nous aurons le plaisir de vous réinviter à l'occasion. Bien, vous pouvez aussi nous proposer des thèmes d'émission que vous souhaiteriez aborder. Nous sommes toujours preneurs. Hein. D'accord.
C'est noté.
Allez. Merci, merci pour l'invitation.
Et à très très bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt.
Allez, au revoir. Merci Sidi pour la technique. Merci à Farid, Saïd ainsi qu'à Yazid. Bye bye, à la fois prochaine. Et nous remercions bien sûr l'État, la métropole et le département.